Livre 3, chapitre 1. Le matin du 7 octobre, de bonne heure, les Tuileries étaient pleines d'un peuple ému, affamé de voir son roi. Tout le jour, pendant qu'il recevait l'hommage des corps constitués, la foule l'observait du dehors, l'attendait et le cherchait. On le voyait, ou on croyait le voir de loin à travers les vitres. Celui qui avait le bonheur de l'apercevoir le montrait à son voisin. « Le voyez-vous, le voilà !» Il fallut qu'il parût au balcon, et ce furent des applaudissements unanimes. Il fallut qu'il descendît au jardin, qu'il répondît de plus près à l'attendrissement du peuple. Sa sœur, Madame Élisabeth, jeune et innocente personne, fut touchée, ouvrit ses fenêtres et soupa devant la foule. Les femmes approchaient avec leurs enfants, la bénissant, lui disant qu'elle était belle. On avait pu, dès la veille, le soir même du 6 octobre, se rassurer tout à fait sur ce peuple dont on avait eu tant peur. Lorsque le roi et la reine parurent à l'hôtel de ville entre les flambeaux, un tonnerre monta de la grève, mais de cris, de joie, d'amour, de reconnaissance pour le roi qui venait vivre au milieu d'eux. Ils pleuraient comme des enfants, se tendaient les mains, s'embrassaient les uns les autres. « La révolution est finie, disait-on. Voilà le roi délivré de ce Versailles, de ses courtisans, de ses conseillers. » Et en effet, ce mauvais enchantement qui depuis plus d'un siècle tenait la royauté captive, loin des hommes, dans un monde de statues, d'automates plus artificiels encore, grâce à Dieu, il était rompu. Le roi était replacé dans la nature réelle, dans la vie et la vérité. Ramené de son long exil, il revenait chez lui, rentrait à sa vraie place, se trouvait rétabli dans son élément de roi. Et quel autre sinon le peuple? Où donc ailleurs un roi pourrait-il respirer et vivre? Vivez, sire, au milieu de nous. Soyez libre pour la première fois, vous ne l'avez été guère. Toujours vous avez agi, laissé agir malgré vous. Chaque matin, on vous a fait faire de quoi vous repentir le soir. Chaque jour, vous avez obéi. Sujet si longtemps du caprice, régnez enfin selon la loi. C'est la royauté, c'est la liberté. Dieu ne règne pas autrement. Telles étaient les pensées du peuple, généreuses et sympathiques, sans rancune, sans défiance. Mêlé pour la première fois au Seigneur, aux belles dames, il était plein d'égards pour eux. Les gardes du corps eux-mêmes, il les voyait avec plaisir qui se promenaient bras dessous avec leurs amis et sauveurs, les braves gardes françaises. Il applaudissait les uns et les autres pour rassurer, consoler ses ennemis de la veille. Qu'on sache éternellement qu'à cette époque mal connue, défigurée par la haine, le cœur de la France fut plein de magnanimité, de clémence et de pardon. Dans les résistances mêmes que provoque partout l'aristocratie, dans les actes énergiques où le peuple se déclare prêt à frapper, il menace et il pardonne. Metz dénonce au Parlement rebelle à l'Assemblée nationale, puis intercède pour lui. La Bretagne, dans la redoutable fédération qu'elle fit en plein hiver, janvier, se montra forte et clémente. 150 000 hommes armés s'y engagèrent à résister aux ennemis de la loi, et le jeune chef qui, à la tête de leurs députés, jurait l'épée sur l'autel, ajouta à son serment « S'ils deviennent de bons citoyens, nous leur pardonnons. » Ces grandes fédérations, qui pendant 8 ou 9 mois se font par toute la France, sont le trait distinctif, l'originalité de cette époque. Elles sont d'abord défensives, de protection mutuelle contre les ennemis inconnus, les brigands, contre l'aristocratie. Puis, ces frères armés ensemble veulent vivre ensemble aussi. Ils s'inquiètent des besoins de leurs frères. Ils s'engagent à assurer la circulation des grains, à faire passer la subsistance de province en province, de ceux qui ont un peu à ceux qui n'ont pas. Enfin, la sécurité renaît, la nourriture est moins rare, les fédérations continuent, sans autre besoin que celui du cœur, pour s'unir, disent-ils, et s'aimer les uns les autres. Les villes et les villes se sont d'abord unies entre elles pour se protéger elles-mêmes contre les nobles. Puis, les nobles étant attaqués par le paysan ou par des bandes errantes, les châteaux brûlés, les villes sortent en armes, vont protéger les châteaux, défendre les nobles, leurs ennemis. Ces nobles viennent en foule s'établir dans les villes, parmi ceux qui les ont sauvés, et prêtés le serment civique. Février-mars. Les luttes des villes et des campagnes durent peu, heureusement. Le paysan de bonne heure ouvre l'oreille et les yeux. Il se confédère à son tour pour l'ordre et la constitution. J'ai sous les yeux les procès-verbaux d'une foule de ces fédérations des campagnes, et j'y vois le sentiment de la patrie éclater sous forme naïve, autant et plus vivement peut-être encore que dans les villes. Plus de barrières entre les hommes. Il semble que les murs des villes ont tombé. Souvent, les grandes fédérations urbaines vont se tenir dans les campagnes. Souvent, les paysans, en bande réglée, le maire et le curé en tête, viennent fraterniser dans les villes. Tous en ordre, tous armés. La garde nationale à cette époque, il ne faut pas l'oublier, C'est généralement tout le monde. Tout le monde se met en branle. Tout part comme au temps des croisades. Où vont-ils assis par groupe, ville et ville, village et village, province et province? Quelle est donc la Jérusalem qui attire ainsi tout un peuple, l'attire, noir de lui-même, mais l'unit, le concentre en lui? C'est mieux que celle de Judée. C'est la Jérusalem des cœurs, la sainte unité fraternelle. La grande cité vivante qui se bâtit d'hommes. En moins d'une année, elle est faite, et depuis, c'est la patrie. Voilà ma route dans ce troisième livre. Tous les obstacles du monde, les cris, les actes violents, les aigres disputes me retarderont, mais ne me détourneront pas. Le 14 juillet m'a donné l'unanimité de Paris, et l'autre 14 juillet va me donner tout à l'heure l'unanimité de la France. Comment le vieil amour du peuple, le roi, fut-il resté seul hors de cet universel embrassement fraternel? Il en fut le premier objet. On avait beau voir près de lui la reine toujours en larmes, triste et dure, ne nourrissant que rancune. On avait beau voir la pesante servitude où le tenaient ses scrupules de dévot, et la servitude aussi où sa nature matérielle le liait près de sa femme. On s'obstinait toujours à placer l'espoir en lui. Chose ridicule à dire, la peur du 6 octobre avait fait une foule de royalistes. Ce réveil terrible, cette fantasmagorie nocturne avait profondément troublé les imaginations. On se serrait près du roi, l'assemblée d'abord. Jamais elle ne fut si bien pour lui. Elle avait eu peur. 10 jours après, ce fut encore avec grande répugnance qu'elle vint siéger dans ce sombre Paris d'octobre, parmi cette mer de peuple. 150 députés aimèrent mieux prendre les passeports. Mounier, Lally se sauvèrent. Les deux premiers hommes de France, le plus populaire, le plus éloquent, Lafayette et Mirabeau, revinrent royalistes à Paris. Monsieur de Lafayette avait été mortifié d'être mené à Versailles tout en paraissant mené. Dans son triomphe involontaire, il était presque autant piqué que le roi. Il fit en rentrant deux choses. Il enhardit la municipalité à faire poursuivre au Châtelet la feuille sanglante de Marat. Lui-même, il alla trouver le duc d'Orléans, l'intimida, lui parla haut et ferme, et chez lui, et devant le roi, lui faisant sentir qu'après le 6 octobre, sa présence à Paris inquiétait, donnait des prétextes, excluait la tranquillité. Il le poussa ainsi à Londres. Le duc voulant en revenir, Lafayette lui fit dire que le lendemain de son retour, il se battrait avec lui. Mirabeau, privé de son duc, et voyant décidément qu'il n'en tirerait jamais parti, se tourna bonnement, avec l'aplomb de la force et comme un homme nécessaire qu'on ne peut pas refuser, du côté de Lafayette, 10-20 octobre. Il lui proposait nettement de renverser Necker et de gouverner à deux. C'était certainement la seule chance de salut qui resta au roi. Mais Lafayette n'aimait ni n'estimait Mirabeau, la cour les détestait tous deux. Un moment, un court moment, les deux forces qui restaient, la popularité, le génie, s'entendirent au profit de la royauté. Un événement fortuit qui se passa justement à la porte de l'Assemblée, 2 ou 3 jours après son arrivée à Paris, l'effraya, la poussa à désirer l'ordre à tout prix. Un malentendu cruel fit périr un boulanger. Le meurtrier fut sur le champ jugé, pendu. Ce fut pour la municipalité l'occasion de demander une loi de sévérité et de force. L'Assemblée décréta la loi martiale qui armait les municipalités du droit de reconquérir les troupes et la garde citoyenne pour dissiper les rassemblements. En même temps, elle renvoyait les crimes de lèse-nation à un vieux tribunal royal, au Châtelet, petit tribunal pour une si grande mission. Buzot et Robespierre disaient qu'il fallait créer une haute cour nationale. Mirabeau se hasarda juste à dire que toutes ces mesures étaient impuissantes, mais qu'il fallait rendre fort ce pouvoir exécutif, ne pas le laisser se prévaloir de sa propre annihilation. Ceci le 21 octobre. Que de chemin depuis le 6. En 15 jours, le roi avait repris tant de terrain que l'audacieux orateur plaçait sans détour le salut de la France dans la force de la royauté. Monsieur de Lafayette écrivait en Dauphiné au fugitif Mounier qui lamentait la captivité du roi et poussait à la guerre civile. Que le roi n'était point captif, qu'il séjournerait habituellement dans la capitale mais qu'il allait reprendre ses chasses. Ce n'était pas un mensonge. Lafayette priait effectivement le roi de sortir, de se montrer, de ne point autoriser pour une réclusion volontaire le bruit de sa captivité. Nul doute qu'à cette époque, Louis XVI n'eût pu, avec facilité, se retirer soit à Rouen, comme le conseilla Mirabeau, soit à Metz, dans l'armée de Bouillé, ce que désirait la reine.